Bonjour, chers collègues, merci de votre invitation à Montpellier. Alors, est-ce qu'on peut vraiment statuer valablement sur ce devenir des enfants et des adolescents qui ont été abusés? La question est délicate à plusieurs points de vue. D'abord, les réalités de l'agression sexuelle sont très différentes, qualitativement et quantitativement. Elles vont des épines sexuelles, probablement que 30 à 40% d'entre nous ici en ont rencontré pendant leur enfance ou leur adolescence. Ils les ont cicatrisées tout seuls et ils ne les ont jamais racontées à personne, ça aurait été la honte. Elles vont des épines sexuelles jusqu'aux agressions, jusqu'aux abus les plus destructeurs. Et je voudrais d'ailleurs vous faire remarquer à ce sujet que quand nous parlons de traumatisme sexuel, c'est au sens commun, je dirais presque populaire du terme, mais seule une minorité des abus répondent aux caractéristiques techniques du trauma. Événements effrayants déclenchant presque une impression de mort avec un sentiment d'impuissance totale, ce n'est vraiment que la minorité d'entre eux qui répondent à cette définition. Alors, les atteintes, elles ont une extension quantitative variable. Ça va de l'invalidation complète de la vie, quasi complète, l'invalidation de la vie sexuelle, jusqu'à une espèce d'abcès un peu tiède qui se réchauffe de loin en loin, qu'on continue à porter toute sa vie. Moi, je me souviendrai toujours, en vacances, donc pas dans une situation professionnelle, d'un vieux monsieur de 70 ans. Qui a eu besoin de venir me parler parce qu'il m'avait vu à la télévision des abus pédophiliques qu'il avait subis à 10 ans et il en portait toujours la honte. À 70 ans, ça ne l'avait pas empêché de fonder sa famille, de réussir ses affaires, mais l'abcès était toujours bien là. Et puis, il y a toujours la question de notre liberté. Nous avons sur nos vies un certain pouvoir d'autocréation, d'autodétermination. Alors il y a des adultes qui vont continuer en prenant alors la responsabilité à se vautrer dans une boue dans laquelle ils avaient été poussés de force quand ils étaient enfants. Il y en a d'autres qui vont penser, en pensant qu'ils vont relativiser ce qui leur est arrivé. Il y en a d'autres qui vont le dramatiser. Donc, on a toujours des libertés humaines en face de nous et le challenge que vous me proposez, il est bien délicat à remplir. Bon, ceci dit, statistiquement, évidemment qu'il existe des facteurs qui sont indicatifs de la gravité de ce qui va s'en suivre ou d'une certaine bénignité de ce qui va s'en suivre. Et je voudrais vous rappeler, vous le savez bien, que la nature de l'acte ou de la répétition des actes n'est qu'un facteur parmi d'autres, et c'est au moins autant la structure des relations dans laquelle l'enfant a été pris qui va forger les conséquences. C'est aussi l'organisation intrapsychique qui existait déjà chez l'enfant ou l'adolescent victime, et parfois bien longtemps avant. Dans un certain nombre de cas, l'abus ou la série d'abus n'est qu'un point d'orgue, n'est qu'un symptôme, mais d'une logique relationnelle et d'une prédisposition qui était là chez l'enfant et qui l'a parfois aspiré à aller se mettre dans l'œil du cyclone chez son abuseur. Bon, et puis après, on va dire que ce sont les suites de l'abus. Ça, il va être évoqué comme un souvenir écran, comme un symbole, mais finalement, ce n'est que le maillon dans un enchaînement de relations et de dynamiques. Ceci dit, on peut quand même alors évoquer des facteurs de gravité et de protection. Du côté de l'acte, il y a déjà des paramètres. Par exemple, est-ce que l'enfant a un certain pouvoir sur le retour des actes ou n'en a aucun ? Est-ce qu'il peut en prévoir le retour ou est-ce que c'est tout à fait imprévisible? Est-ce qu'il y a un unique auteur ou des multiples auteurs? Est-ce que son corps est agressé ou pas? Donc voilà certainement des critères de gravité. Alors du côté de l'auteur, on sait bien que si c'est un parent de sang, si c'est le père, la mère, le grand-père, ça va être vécu comme plus grave, plus destructeur par l'enfant, parce qu'il a perdu un protecteur tout à fait naturel. Si l'abuseur est un être terrorisant, s'il veut prendre pas seulement un morceau du corps de l'enfant, mais aussi son âme, j'ai connu des abuseurs qui exigeaient de l'enfant ou de l'adolescent que pour aller à l'école le lendemain, ils mettent tel sous-vêtement, tel vêtement, qui exigeait un contrôle sur la pensée. Bon, évidemment, après ça, le sentiment de tristesse, de désespoir est beaucoup plus grand. Alors, on peut aussi tromper l'enfant et lui dire qu'il s'agit d'amour, qu'il s'agit d'initiation saine, alors que, tout simplement, on veut jouir à travers lui. Je ne veux pas dire que tous les abuseurs trompent l'enfant sur l'amour. Il y en a quelques-uns qui, d'une façon immature, mais réelle quand même, aiment l'enfant dont ils utilisent aussi le corps. Mais il y en a quelques-uns qui trompent, qui prétendent aimer alors qu'ils ne veulent que jouir. Alors quand l'enfant s'en rend compte, et il va s'en rendre compte souvent vers la fin de son adolescence, là la souffrance va être évidemment beaucoup plus forte. Les tiers qui ne veulent pas entendre les signaux d'appel de l'enfant, les tiers qui ferment les yeux, les tiers qui sacrifient à moitié ou totalement l'enfant, évidemment que si les choses se passent comme ça, le désespoir qui va s'en suivre est beaucoup plus grand que quand les tiers sont simplement ignorants. Le vieux monsieur de 70 ans dont je vous parlais n'était pas tout à fait vendu par ses parents. Mais ses parents savaient à moitié que le boulanger du village, un célibataire, bon, abusait de l'enfant. Et là, quand l'enfant allait acheter des choses à la boulangerie, la mère le conduisait presque à son fils, un abuseur assez sordide. Et c'est évidemment aussi cette position des tiers qui va être plus ou moins désespérant pour la suite. Bon, l'enfant, oui, il y a toutes sortes de prédispositions en lui. Mais je voudrais encore plus attirer votre attention sur les effets délétères en termes de gravité persistante de la traumatisation secondaire. Vous connaissez certainement ce concept. C'est tout ce qui se passe de défavorable après que l'abus ait cessé. Deux exemples. Nos institutions qui prétendent aider et qui prétendent punir celui qui est abusé, ne le font quand même qu'irrégulièrement. Certains disent même dans moins de la moitié des cas. Alors c'est sûr que si l'enfant qui espérait de l'aide voit casser son espérance, parce que les institutions ont une autre logique, ça va être pour quelque chose dans la gravité de ce qui va s'en suivre. Et puis il y a aussi la traumatisation informelle de l'entourage de l'enfant. Il est évident que si la jeune fille de 18-19 ans explique à son petit ami, en espérant du soutien et de la compréhension, qu'elle a été abusée et que le petit ami se sauve, effrayé ou n'acceptant pas, ou jaloux, je ne sais pas quoi, c'est aussi ça, et parfois même c'est surtout ça qui va faire la souffrance de ce qui va s'en suivre. Alors, quelle est la nature de ces conséquences à long terme? Je vais vous décrire cinq pôles, mais vous devez les voir un peu comme les pointes d'une pyramide tétraédrique. Et en réalité, ce que sont les personnes, ça se balade à la surface, ça se balade. Enfin, la mouvance n'est pas toujours énorme, mais ça se situe quelque part à la surface ou à l'intérieur de la pyramide. Mais bon, avec le temps qui m'est imparti et avec la pauvreté de nos intelligences, je ne pourrai que vous décrire les pôles et puis les transpositions. Nous savons bien que c'est sur le terrain que nous les rencontrons. Alors, le sommet de la pyramide, bien que nous n'ayons pas de statistiques épidémiologiques, nous n'en aurons jamais qui sont totalement fiables à ce sujet-là, mais Moi, mon expérience clinique, je dirais, me fait penser que le sommet de la pyramide, ce sont quand même les gens qui arrivent à cicatriser, qui oublient, qui mettent dans un coin de leur mémoire, qui ne veulent pas que leur vie soit invalidée et qui réussissent à repenser de façon positive. Parfois, c'est peut-être même du refoulement au sens de la psychanalyse, c'est beaucoup plus souvent de l'oubli. Et bon, ils se disent, voilà, on a peut-être pris mon corps de façon sordide à un moment de ma vie, mais je n'ai pas raté ma vie pour autant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans vulnérabilité. Ces gens qui cicatrisent, je vous évoque ici deux points de vulnérabilité. Ils sont quand même un peu plus enclins que la moyenne de la population à une reproduction transgénérationnelle de l'abus, tout mystérieux que ça apparaisse, parce que finalement, ils en ont souffert de l'abus. Mais voilà, dans des mauvais espaces de la vie, dans des moments où leur érotisme est excité, peut-être pas par l'enfant, par le jeune adolescent, ils sont un peu plus à risque de reproduction transgénérationnelle. Il y a comme une trace en eux qui les pousse un tout petit peu dans cette direction-là, sans pour autant que leur liberté, c'est pas des impulsions irrésistibles. Hein. Alors ça reste des choix, mais il y a quand même une poussée intérieure, il y a une trace, même si c'est une trace souffrante qui les amène un peu plus dans cette direction-là. Ben, c'est rare. Alors, ce qui est plus fréquent, par contre, ce sont les projections. Donc, c'est la maman qui a été abusée à répétition par son beau-père quand elle avait entre 9 et 13 ans. Alors, elle se marie ou elle se met en ménage. Son couple, ça va pas très bien. Son mec est violent. Bon, le couple se sépare. Et puis, quand la petite fille va en visite, si elle revient avec la vulve un peu rouge, ces personnes-là ont beaucoup plus tendance à projeter qu'il y a eu de nouveau un abus sexuel que de nouveau la moyenne de la population. Et comme ils vont interroger les enfants assez maladroitement, on est pris dans, alors peut-être dans les drames que M. Castelnau évoquait, de fausses accusations. Et donc nous avons là vraiment une grande responsabilité pour d'évaluation. Alors, les quatre autres pôles de la pyramide, il y a des persistances anormales d'angoisse post-traumatique, mais, à mon sens, dans cette minorité de cas où l'abus ou la série d'abus a vraiment correspondu à ce que nous appelons un traumatisme. Donc une agression effrayante, déclenchant des angoisses énormes et, vis-à-vis de laquelle on a été sidéré. Alors si ça s'est produit pas une fois, donc pas simplement, si j'ose dire, le viol unique dans un endroit désert, mais s'il y a eu une répétition, nous allons avoir des gens qui continuent à vivre avec des angoisses plus ou moins crues et irrationnelles, et encore, qui finalement peut-être réduisent leurs angoisses, mais qui vont avoir des conduites d'évitement alors éventuellement, c'est... Le problème est quantitativement important, d'évitement de la relation avec autrui, d'évitement dans leur vie sexuelle, ils vont s'arranger pour ne plus avoir de relations sexuelles, et c'est aussi dans ces cas, mais c'est rare, qu'on a certaines réorientations homosexuelles par peur de l'autre sexe ou par dégoût de l'autre sexe. Donc voilà, premier point de la base, la persistance de l'angoisse. C'est chez ces gens qui ont en eux des charges traumatiques qu'on va avoir, surtout dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte, donc quand le poids traumatique est encore très fort en eux, on va avoir éventuellement des décharges où se pose alors le problème de l'impulsivité et de l'irrésistibilité. On peut avoir des décharges sur de faibles innocents, à l'instar de toutes les décharges post-traumatiques que nous connaissons dans d'autres circonstances de la vie. Alors, le pôle suivant, c'est un ensemble de vécus pénibles et eux aussi plus ou moins invalidants, qui porte sur la tristesse, la honte, la chute de l'estime de soi, la culpabilisation. Hein, et bon, plutôt qu'un long discours à ce propos, je vous propose ce dessin qui est à la fois une réalité, mais qui a aussi valeur de symbole. Ce dessin, il a été fait par une petite fille de 12 ans, après une série d'abus commis un an ou deux avant par son père. Et cette petite fille, d'abord, ne pouvait plus dessiner un corps. Elle n'arrivait plus à dessiner qu'une tête. Et c'était une tête marquée par des taches qui, disait-elle, faisaient que les autres la fouillaient. Et c'est des taches de laideur parce que cette petite fille avait fait beaucoup de fautes dans sa vie. Et bon, il y a des gens qui, à 30 ans, 40 ans, sont dans leur vie comme ce dessin, porteurs d'une culpabilité, d'une lourdeur de vivre, d'une impression de faute, surtout, mais pas seulement, quand ils ont été un peu ambivalents par rapport à l'abus, une partie d'eux le désirait aussi, mais même parfois tout à fait irrationnellement. Donc il y a vraiment... Enfin, moi je trouve ce dessin superbe pour expliquer cet autre pôle de la lourdeur de vie, de la tristesse de vie, hein, qui peut aussi se focaliser sur la vie sexuelle, et avec du dégoût sexuel. Et alors il y a deux extrêmes qu'on va voir surtout pendant l'adolescence ou à la fin de l'adolescence. Ce sont des situations de désespoir majeur, avec des anorexies de fin d'adolescence, mais qui ne correspondent pas aux critères classiques de l'anorexie, plus hystérique des adolescentes opposantes, des anorexies mélancoliques vraiment, des espèces de suicides qui ne disent pas leur nom, ou aussi des suicides, des tentatives de suicide. Hein, et un autre extrême, c'est l'autodestruction négativiste, bruyante, avec consommation de drogue, multiplication des activités sexuelles jusqu'à la prostitution ou la quasi-prostitution. Bon, voilà, c'est aussi dans le cadre de ce pôle. Alors, le pôle suivant, c'est les gens qui laissent monter en eux une très grande colère, jusqu'à la haine. Alors, cette colère, elle est ciblée sur l'ex-abuseur, ce qui ne veut pas dire que, concrètement, ils vont l'agresser, mais quand ils en parlent, ils sont vraiment dans l'indignation et la colère. Alors, moi, je pense que ce que nous appelons la victimisation spectaculaire, hein, ces gens qui passent à la télévision, qui écrivent des livres, qui n'arrêtent pas de revendiquer... En référence à leur souffrance, c'est aussi pour moi des positions de colère un peu indirectes, qui ne disent pas tout à fait leur nom et qui s'adressent alors peut-être plus à l'ensemble de la société. Alors, j'ai pas le temps, on en reparlera peut-être dans le débat tantôt, de vous parler de la troisième vignette, si vous voulez, de ce que peut être cette colère, mais bon, il y a quelques ex-violentés à répétition qui, vers leurs 9-10 ans, laissent monter en eux une haine phénoménale. Ce sont des gens très solitaires, mais vraiment pleins de haine, et qui, c'est ce que j'appelle la psychologie du serial killer. Certains serial killers qui commencent à torturer des animaux, et qui vraiment ont des vies d'une agressivité très cruelle. Ils ont à un certain moment réagi à la façon dont ils avaient été longuement violentés, en sélectionnant cette haine, mais bon, c'est très rare. Ce qui est... Oui, ce dessin permet aussi de comprendre ce que je veux dire. Il a été fait par un petit garçon de 9 ans qui avait été sodomisé à répétition par un voisin, qui avait d'ailleurs... Une de ses peurs était qu'il pouvait être enceinte. Bon, et il montre, il représente là, à la partie gauche du dessin, un enfant, je dirais, qui éjacule des boules d'agressivité, qui éructe son agressivité contre un agresseur qu'on voit au milieu et qui est l'agresseur d'une femme. Alors bon, il y a des gens qui, à 30 ans, fonctionnent comme ça. Ils sont toujours dans la colère, dans l'expression de leur agressivité, parfois bien ciblée, parfois pas si bien ciblée que ça. Alors, il y a quand même alors une catégorie de conséquences dont on ne parle pas beaucoup et qui sont beaucoup plus l'apprentissage ou l'identification à l'abuseur ou l'apprentissage de l'érotisme. Bon, il y a quand même une partie des abus qui sont très subtils. Nous employons le mot « soft », hein, où celui qui abuse est un très bon maître en apprentissage de l'érotisme. Et ça peut marcher. Hein? Et il y a aussi des gens qui vont avoir du mal dans la suite de leur vie à contrôler leur sexualité, à lier sexualité et affectivité. Là, le dessin que vous voyez circuler dans un collège, en première année de collège, c'est un garçon de 11-12 ans qui l'avait fait, qui avait été abusé, ce qui ne veut pas dire que tous les gosses qui font des dessins comme ça ont été abusés, mais c'est parfois simplement le début de leur puberté qui les démange dans des milieux pas très socialisés. Mais il y a des gens qui, il y a 30 ans, continuent à fonctionner comme ça, avec une sexualité de pur plaisir, tous azimuts, parce qu'ils ont été allumés par leur abuseur. Et puis, il y en a aussi qui apprécient le lien affectif et sexuel que leur offre l'abuseur, le pédophile, qui, dans ces cas-là, n'est d'ailleurs pas nécessairement un pervers au sens technique du mot, mais plutôt un immature, qui est à la recherche aussi d'affectivité immature. Et, bon, on peut avoir des orientations homosexuelles, alors pas par dégoût cette fois-ci, mais par goût, parce que bah, cette orientation a été éveillée par la personne qui abusait. C'est plus avec des jeunes adolescents qu'on voit ça, et probablement qu'il y avait déjà aussi des prédispositions chez l'enfant ou chez l'ado, et puis que ce que nous appelons l'abus, qui en est un, est venu remplir quelque chose que l'enfant attendait en partie, et puis bon, ça continue dans la suite de la vie. Jusqu'à la reproduction, pas seulement de la sexualité sans retenue, mais la reproduction des perversions de l'abuseur lui-même, et encore une fois, pas en référence à des impulsions irrésistibles. À un certain moment, il y a un choix, il y a une responsabilité engagée, mais bon, voilà, ça intéresse le jeune qui était abusé de remettre le couvert, en se inclut dans les pratiques perverses auxquelles il a été initié. Bon, ça je vous ai déjà dit, ça j'ai pas le temps, et je termine avec quelques questions thérapeutiques. Au fond, vous avez souhaité réfléchir sur les nouvelles approches. Alors, est-ce que j'en ai à vous proposer pas oui et non. Vive les nouvelles approches, elles sont certainement intéressantes, mais il ne faut pas non plus abandonner les acquis comme s'ils n'avaient plus de valeur. Et je crois que nos attitudes psychothérapeutiques usuelles gardent toute leur importance. Et il me semble que je dois attirer notre attention sur la dernière. Le dernier rang que je vous propose ici. Je crois que, on est dans une position d'écoute, de respect, c'est très bien, mais ça me paraît particulièrement important que ces gens qui souffrent ou qui peut-être ont reproduit un peu le type de sexualité auquel ils ont été initiés, ça me paraît très important qu'ils nous entendent dire l'estime que nous pouvons avoir pour eux. Après l'écoute, que nous ayons des mots très, très positifs, très explicites au sujet de notre estime. Je pense encore à mon vieux monsieur de 70 ans, qui est un paradigme d'une évolution, pas dramatique, mais quand même un peu douloureuse. Je l'ai vu une fois. Et je vous le redis, ce n'était pas dans une circonstance professionnelle, ça se passait dans ma maison de campagne, bon, c'est un vieux voisin, dirais-je. Et je l'ai vu une fois, je lui ai parlé une fois, je l'ai écouté, mais je lui ai dit aussi, peut-être un peu cognitiviste à mes heures, combien ce qu'il vivait pouvait arrivé à d'autres et combien... Enfin, je lui ai montré ma compassion, mais aussi toute l'estime que j'avais pour lui. Et après ça, chaque fois que je le vois sur son tracteur, il est souriant, il me fait des grands signes. Bon, j'ai l'impression que ça l'a aidé. Et je pense qu'on a besoin de notre estime aussi, de la verbalisation de notre estime. Les gens qui ont un projet sexuel un peu hédoniste ou un peu à la limite de la perversion eux-mêmes, bon, qu'ils nous entendent dire eux aussi, j'ai de l'estime pour vous, pour votre être profond, mais ce serait bien mieux, bien c'est tout à fait nécessaire que vous ayez un meilleur contrôle sur certaines formes de votre sexualité. Je voudrais vous y aider, je voudrais réfléchir avec vous, mais quelque part, eux aussi ont besoin que nous ne les regardions pas comme des gens purement pris, purement prisonniers d'une sexualité plus ou moins débridée qui s'est installée en eux. Alors, autre approche que je vous propose, c'est, comment dirais-je ? C'est un peu une pincée des moments un peu systémiques dans l'accompagnement des individus, un peu pratiques systémiques en amateur, peut-être pas les pratiques systémiques très bien codifiées que nous apprennent les écoles de thérapie systémique, mais moi j'ai quand même vu que assez souvent, ces personnes en face avaient des décisions à prendre sur leur système relationnel et que c'était très important de les aider dans ces décisions qu'elles devaient prendre, de les aider avec délicatesse parce que finalement c'est elles qui restent les décideurs, de les aider en nous souvenant que souvent il n'y a pas de bonne ni de mauvaise décision mais qu'on finit par prendre celle avec laquelle on est en congruence, mais de les aider aussi en leur donnant des éléments d'information dont éventuellement on dispose. Alors je vous donne quelques exemples. Bah, d'abord se pose pour un certain nombre de personnes la question de le dire ou de ne pas le dire. Hein, est-ce que j'ai raconté à mon mari ? Est-ce que j'ai raconté à mes enfants ? Est-ce que j'ai parlé avec mes frères et sœurs de ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je vais remettre, est-ce qu'il va y avoir une reverbalisation familiale ? Est-ce que je vais permettre à mes enfants d'aller voir mon vieux père qui vit toujours, mais qui a abusé de moi, peut-être pas très longtemps, mais qui l'a fait quand même quand j'étais ado, et personne ne l'a su, mais bon, se pose le problème maintenant de mes enfants. Alors, il y a des décisions à prendre. Alors, bon, si les faits sont connus et ont été traités socialement de l'une ou l'autre manière, plus ou moins fructueuse, il y a quand même toujours des décisions à prendre. Il y a un chemin vers le pardon ou vers le non-pardon. Il y a la question des reprises de contact. Il y a ce que nous avons à dire au sujet de la colère prolongée. Alors, si les faits ne sont pas connus et qu'il n'y a pas prescription, qu'est-ce que nous allons recommander à la personne ? Comment allons-nous l'aider à prendre des décisions ? Est-ce qu'elle va les mettre ce qui s'est passé sur la scène sociale, ou bien est-ce qu'elle va demander l'aide de la justice, de la police, déposer plainte des années après, ou est-ce qu'elle va ne rien faire, ou est-ce qu'elle va essayer de régler ça en restant dans le tissu familial. Alors ça vous fait peut-être un peu rire, cette image assez célèbre, qui est une des bonnes images qui circulent sur Internet, à la gloire des États-Unis d'Amérique, avec le petit Irakien qui fait pipi sur le soldat. Mais quand, des années après, on veut dénoncer un abus sexuel sans preuve matérielle, on est un peu dans la position de ce petit Irakien qui essaie de faire pipi sur un soldat, parce que je vous jure, et vous le savez bien, que l'ex-abuseur, il va se défendre, hein, bec et oncle. Il ne va pas nécessairement se défendre tout seul, il y a sa femme qui va l'aider. Il y a des gens qui vont l'aider et ça mérite quand même réflexion de savoir si et comment on va faire pipi. Alors s'il y a prescription judiciaire, le problème de décision à prendre, de personnes à associer se pose aussi. Est-ce qu'on va s'activer ? Est-ce qu'on va aller secouer de vieux parents qui ont maintenant 80 ans, mais où en son temps le papa était vraiment infâme ? Comment va-t-on le faire ? enfin voilà. Il y a tout un champ vraiment de au-delà de l'écoute, il y a vraiment tout un champ de l'aide à la décision. Et je le redis, qui inclut des pratiques systémiques. Enfin bon, moi je sais que parfois j'ai fait venir des frères et sœurs, que j'ai parfois fait venir des vieux parents, que j'ai obtenu l'une ou l'autre fois dans ma vie des aveux très différés, et puis que ça a fait du bien à la personne. Enfin, bon, il y a tout un champ certainement pour notre pratique. Et je m'arrête ici, je ne suis pas le spécialiste des conclusions un peu talentueuses, donc je vous remercie de votre attention, et nous ne parlerons pas plus.